Chapitre 3. E la faccia del sol nascere ombrata. Purgatorio 30. Il avait fallu céder. Malgré l'obstination d'une résistance héroïque, les coups avaient eu raison de sa mauvaise volonté. Tous les matins 3 heures, et 3 heures tous les soirs, Christophe était placé devant l'instrument de torture. Crispé d'attention et d'ennui, de grosses larmes coulant le long de ses joues et de son nez, il remuait sur les touches blanches des noirs ses petites mains rouges, souvent gourdes de froid, sous la menace de la règle qui s'abattait à chaque fausse note et des vociférations de son maître qui lui étaient plus odieuses que les coups. Il pensait qu'il haïssait la musique. Il s'appliquait pourtant avec un acharnement que la peur de Melchior ne suffisait pas à expliquer. Certains mots du grand-père avaient fait impression sur lui. Le vieux, voyant pleurer son petit-fils, lui avait dit avec gravité qu'il valait bien la peine de souffrir un peu pour le plus bel art et le plus noble qui fût donné aux hommes, pour leur consolation et pour leur gloire. Et Christophe, qui était reconnaissant à grand-père de ce qu'il lui parlait comme à un homme, avait été secrètement touché par cette naïve parole qui s'accordait avec son stoïcisme enfantin et son orgueil naissant. Mais, plus que tous les arguments, le souvenir profond de certaines émotions musicales l'attacha malgré lui, l'asservit pour la vie à cet art détesté contre lequel il tentait en vain de se révolter. Il y avait dans la ville, comme c'est l'habitude en Allemagne, un théâtre qui jouait l'opéra, l'opéra comique, l'opérette, le drame, la comédie, le vaudeville et tout ce qui pouvait se jouer de tous les genres et de tous les styles. Les représentations avaient lieu 3 fois par semaine, de 6 heures à 9 heures du soir. Le vieux Jean-Michel n'en manquait pas une, et témoignait à toutes un intérêt égal. Il emmena une fois avec lui son petit-fils. Plusieurs jours à l'avance, il lui avait raconté longuement le sujet de la pièce. Christophe n'y avait rien compris, mais il avait retenu qu'il se passerait des choses terribles, et, tout en brûlant du désir de les voir, il en avait grand peur. Il savait qu'il y aurait un orage, et il craignait d'être foudroyé. Il savait qu'il y aurait une bataille, et il n'était pas sûr de ne pas être tué. La veille, dans son lit, il en avait une véritable angoisse, et le jour de la représentation, il souhaitait presque que grand-père fût empêché de venir. Mais l'heure approchant, et grand-père ne venant pas, il commençait à se désoler et regardait à tout instant par la fenêtre. Enfin, le vieux parut, et ils partirent ensemble. Le cœur lui sautait dans la poitrine. Il avait la langue sèche, il ne pouvait articuler une syllabe. Ils arrivèrent à cet édifice mystérieux dont il était souvent question dans les entretiens de la maison. À la porte, Jean-Michel rencontra des gens de connaissance, et le petit, qui lui serrait la main très fort, tant il avait peur de le perdre, ne comprenait pas comment il pouvait causer tranquillement et rire en cet instant. Grand-père s'installa à sa place habituelle, au premier rang, derrière l'orchestre. Il s'appuyait sur la balustrade et commençait aussitôt avec la contrebasse une interminable conversation. Il se trouvait là dans son milieu. Là, on l'écoutait parler à cause de son autorité musicale. Et il en profitait. On peut même dire qu'il en abusait. Christophe était incapable de rien entendre. Il était écrasé par l'attente du spectacle, par l'aspect de la salle qui lui paraissait magnifique, par l'affluence du public qui l'intimidait horriblement. Il n'osait tourner la tête, croyant que tous les regards étaient fixés sur lui. Il serrait convulsivement entre ses genoux sa petite casquette, et il fixait le rideau magique avec des yeux ronds. Enfin, on frappa les 3 coups. Grand-père se moucha, tira de sa poche le libretto, qu'il ne manquait jamais de suivre scrupuleusement, au point de négliger parfois ce qui se passait sur la scène. Et l'orchestre commença de jouer. Dès les premiers accords, Christophe se sentit tranquillisé. Dans ce monde des sons, il était chez lui. Et, à partir de ce moment, quelque extravagant que fût le spectacle, tout lui parut naturel. Le rideau s'était levé, découvrant des arbres en carton et des êtres qui n'étaient pas beaucoup plus réels. Le petit regardait, béant d'admiration, mais il n'était pas surpris. Cependant, la pièce se passait dans un Orient de fantaisie dont il ne pouvait avoir aucune idée. Le poème était un tissu d'ineptie où il était impossible de se reconnaître. Christophe n'y voyait goutte. Il confondait tout, prenait un personnage pour un autre, tirait son grand-père par la manche pour lui poser des questions saugrenues qui prouvaient qu'il n'avait rien compris. Et non seulement il ne s'ennuyait pas, mais il était passionnément intéressé. Sur l'imbécile libretto, il bâtissait un roman de son invention qui n'avait aucun rapport avec ce que l'on jouait. À tout instant, les événements le démentaient, et il fallait le remanier, mais cela ne troublait pas l'enfant. Il avait fait son choix parmi les êtres qui évoluaient sur la scène, avec des cris variés, et il suivait, palpitant, les destinées de ceux à qui il avait accordé ses sympathies. Surtout, il était troublé par une belle personne, entre deux âges, qui avait de longs cheveux blonds ardents, des yeux d'une largeur exagérée, et qui marchait pieds nus. Les invraisemblances monstrueuses de la mise en scène ne le choquaient point. Ses yeux aigus d'enfant ne remarquaient pas la laideur grotesque des acteurs, énormes et charnus, les choristes difformes de toutes les dimensions, alignés sur deux rangs, la niaiserie des gestes, les faces congestionnées par les hurlements, les perruques touffues, les hauts talons du ténor et le phare de sa belle amie, au visage tatoué de coups de crayon multicolores. Il était dans l'état d'un amoureux à qui sa passion ne permet plus de voir comme il est l'objet aimé. Le merveilleux pouvoir d'illusion, qui est le propre des enfants, arrêtait au passage les sensations déplaisantes et les transformait à mesure. La musique opérait ses miracles. Elle baignait les objets d'une atmosphère vaporeuse où tout devenait beau, noble et désirable. Elle communiquait à l'âme un besoin dévorant d'aimer. Et en même temps, elle lui offrait des fantômes d'amour pour remplir le vide qu'elle-même avait creusé. Le petit Christophe était éperdu d'émotion. Il y avait des mots, des gestes, des phrases musicales qui le mettaient mal à l'aise. Il n'osait plus lever les yeux. Il ne savait pas si c'était mal ou bien. Il rougissait et pâlissait tour à tour. Il en avait des gouttes de sueur au front, et il tremblait que les gens qui étaient là ne s'aperçussent de son trouble. Quand arrivèrent les catastrophes inévitables qui fondent sur les amants, au quatrième acte des opéras, afin de fournir au ténor et à la prima donna l'occasion de faire valoir leurs cris les plus aigus, l'enfant crut qu'il allait étouffer. Il avait la gorge douloureuse, comme quand il avait pris froid. Il se serrait le cou avec ses mains. Il ne pouvait plus avaler sa salive. Il était gonflé de larmes. Heureusement que grand-père n'était pas beaucoup moins ému. Il jouissait du théâtre avec une naïveté d'enfant. Au passage dramatique, il toussotait d'un air indifférent pour cacher son trouble. Mais Christophe le voyait, et cela lui faisait plaisir. Il avait horriblement chaud, il tombait de sommeil, et il avait très mal où il était assis. Mais il pensait uniquement, y en a-t-il encore pour longtemps, pourvu que ça ne soit pas fini. Et brusquement, tout fut fini, sans qu'il comprît pourquoi. Le rideau tomba, tout le monde se leva, l'enchantement était rompu. Ils revinrent dans la nuit, les deux enfants ensemble, le vieux et le petit. Quelle belle nuit! Quel calme clair de lune! Ils se taisaient tous deux, ruminant leurs souvenirs. Enfin, le vieux lui dit, « Es-tu content ?» Christophe ne pouvait pas répondre. Il était encore intimidé par son émotion, et il ne voulait pas parler, de peur de briser le charme. Il dut faire un effort pour murmurer tout bas, avec un gros soupir, « Oh, oui !» Le vieux sourit. Après un temps, il reprit, « Vois-tu quelle chose admirable est le métier de musicien ? Créer ces spectacles merveilleux, y a-t-il rien de plus glorieux ? C'est être Dieu sur terre. » Le petit fut saisi. « Quoi ? C'était un homme qui avait créé cela ? » Il n'y avait pas songé. Il lui semblait presque que cela s'était fait tout seul, que c'était l'œuvre de la nature. Un homme, un musicien, comme il serait un jour ? Oh, être cela un jour, un seul jour ! Et puis après, tout ce qu'on voudra, mourir s'il le faut. Il demanda, « Qui est-ce, grand-père, celui qui a fait cela ?» Grand-père lui parla de François-Marie Hassler, un jeune artiste allemand qui habitait Berlin et qu'il avait connu jadis. Christophe écoutait tout oreille. Brusquement, il dit « Et toi, grand-père ?» Le vieux eut un tressaillement. « Quoi ? » demanda-t-il. « Est-ce que tu en as fait, toi aussi, de ces choses ?»«
Certainement, » fit le vieux, d'une voix fâchée.
Il se tut, et après quelques pas, il soupira profondément. C'était une des douleurs de sa vie. Il avait toujours désiré écrire pour le théâtre, et l'inspiration l'avait toujours trahi. Il avait bien dans ses cartons un ou deux actes de sa façon, mais il conservait si peu d'illusions sur leur valeur qu'il n'avait jamais osé les soumettre au jugement de personne. Ils ne se dirent plus un mot, jusqu'à ce qu'ils fussent rentrés. Ils ne dormirent ni l'un ni l'autre. Le vieux avait de la peine. Il avait pris sa Bible pour se consoler. Christophe repassait dans son lit les événements de la soirée. Il se rappelait les moindres détails, et la fille aux pieds nus lui réapparaissait. Quand il allait s'assoupir, une phrase de musique résonnait à son oreille, aussi distinctement que si l'orchestre était là. Il tressautait. Il se soulevait sur son oreiller, la tête ivre, et il pensait « Un jour, j'en écrirai aussi. Oh, est-ce que je pourrai jamais ?» À partir de ce moment, il n'eut plus qu'un désir, retourner au théâtre. Et il se remit au travail avec d'autant plus d'ardeur qu'on lui fit du théâtre la récompense de son travail. Il ne songeait plus qu'à cela. Pendant la moitié de la semaine, il pensait au spectacle passé. Et il pensait au spectacle prochain pendant l'autre moitié. Il tremblait de tomber malade pour la représentation. Et sa crainte lui faisait éprouver souvent les symptômes de 3 ou 4 maladies. Le jour venu, il ne dînait pas. Il s'agitait comme une âme en peine. Il allait regarder 50 fois l'horloge. Il croyait que le soir n'arriverait jamais. Enfin, n'y tenant plus, il partait de la maison 1 heure avant l'ouverture des bureaux, dans la peur de ne pas trouver une place. Et comme il était le premier dans la salle déserte, il commençait à s'inquiéter. Son grand-père lui avait raconté que, 2 ou 3 fois, le public n'étant pas assez nombreux, les comédiens avaient préféré ne pas jouer et rendre le prix des places. Il guettait les arrivants, il les comptait. Il pensait « 23, 24, 25. Oh, ce n'est pas assez. Jamais ce ne sera assez. » Et quand il voyait entrer au balcon ou à l'orchestre quelques personnages d'importance, il avait le cœur plus léger. Il se disait « Celui-là, ils n'oseront pas le renvoyer. Sûrement, ils joueront pour lui. » Mais il n'était pas convaincu. Il ne se rassurait que quand les musiciens s'installaient. Encore craignait-il jusqu'au dernier moment que le rideau se levât et que l'on annonçât, comme on le fit un soir, un changement de spectacle. Il regardait de ses petits yeux de lynx sur le pupitre de la contrebasse si le titre inscrit sur le cahier était celui de la pièce attendue. Et quand il avait bien vu, 2 minutes après, il regardait de nouveau pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé. Le chef d'orchestre n'était pas encore là. Sûrement il était malade. On s'agitait derrière le rideau, on entendait un bruit de voix et de pas précipités. C'était un accident, un malheur imprévu? Le silence se rétablissait. Le chef d'orchestre était à son poste. Tout semblait enfin prêt. On ne commençait pas. Mais que se passait-il donc? Il bouillait d'impatience. Enfin, le signal retentissait. Il avait des battements de cœur. L'orchestre préludait, et pendant quelques heures, Christophe nageait dans une félicité que troublait seulement l'idée qu'elle finirait. À quelque temps de là, un événement musical surexcita les pensées de Christophe. François-Marie Hassler, l'auteur du premier opéra qu'il avait bouleversé, allait venir. Il devait diriger un concert de ses œuvres. La ville fut en émoi. Le jeune maître était violemment discuté en Allemagne, et pendant 15 jours, on ne parla que de lui. Ce fut bien autre chose quand il fut arrivé. Les amis de Melchior et ceux du vieux Jean-Michel venaient constamment aux nouvelles, et ils en apportaient d'extravagantes sur les habitudes du musicien et ses excentricités. L'enfant suivait ses récits avec une attention passionnée. L'idée que le grand homme était là, dans sa ville, qu'il respirait le même air, qu'il foulait les mêmes pavés, le jetait dans un état d'exaltation muette. Il ne vivait plus que dans l'espérance de le voir. Hassler était descendu au palais, où le grand-duc lui avait offert l'hospitalité. Il ne sortait guère que pour aller au théâtre diriger les répétitions, où Christophe n'était pas admis. Et comme il était fort indolent, il allait et revenait toujours dans la voiture du prince.
Christophe avait donc peu d'occasion de le contempler. Il ne réussit qu'une fois à apercevoir au passage, au fond de la voiture, son manteau de fourrure, bien qu'il perdît des heures à l'attendre dans la rue, donnant de forts coups de poing à droite, à gauche, pour conquérir et maintenir sa place au premier rang des badauds. Il se consolait, en passant la moitié de ses jours à guetter les fenêtres du palais qu'on lui avait désignées comme étant celles du maître. Le plus souvent, il ne voyait que les volets, car Hasler se levait tard et les fenêtres restaient fermées presque toute la matinée. C'est ce qui avait fait dire aux gens bien informés que Hasler ne pouvait supporter le jour et qu'il vivait dans une nuit perpétuelle. Enfin, Christophe fut admis à approcher son héros. C'était le jour du concert. Toute la ville était là. Le grand-duc et sa cour occupaient la grande loge princière, surmontée d'une couronne que tenaient dans les airs, avec des rondes jambes, deux chérubins joufflus. Le théâtre avait un aspect de gala. La scène était ornée de branches de chêne et de lauriers fleuris. Tous les musiciens de quelque valeur s'étaient fait honneur de tenir leur partie dans l'orchestre. Melchior était à son poste, et Jean-Michel dirigeait les chœurs. Lorsque Hasler parut, une acclamation monta de toutes parts, et les dames se levaient afin de mieux le voir. Christophe le dévorait des yeux. Hasler avait une figure jeune et fine, mais déjà un peu bouffie et fatiguée. Les tempes étaient dégarnies. Une calvitie précoce se montrait au sommet du crâne, parmi les cheveux blonds qui frisaient. Ses yeux bleus avaient un regard vague. Sous la petite moustache blonde, la bouche ironique restait rarement en repos, contracté par mille mouvements imperceptibles. Il était grand et se tenait mal, non par gêne, mais par fatigue ou par ennui. Il dirigeait avec une souplesse capricieuse de tout son grand corps dégingandé qui ondulait, comme sa musique, avec des gestes tour à tour caressants et cassants. On voyait qu'il était prodigieusement nerveux, et sa musique était son reflet. Cette vie trépidante et saccadée pénétrait l'apathie ordinaire de l'orchestre. Christophe haletait. Malgré sa crainte d'attirer sur lui les regards, il ne pouvait rester immobile à sa place. Il s'agitait, il se levait, et la musique lui causait de si violentes secousses et si inattendues qu'il était contraint de remuer la tête, les bras, les jambes, au grand dommage de ses voisins qui se garaient comme ils pouvaient de ses ruades. Au reste, tout le public était dans l'enthousiasme, fasciné par le succès, bien plus que par les œuvres. À la fin, il y eut un orage d'applaudissements et de cris, où les trompettes de l'orchestre, selon la mode allemande, mêlèrent leurs clameurs triomphales pour saluer le vainqueur. Christophe tressaillait d'orgueil, comme si ses honneurs étaient pour lui. Il jouissait de voir le visage de Hasler s'illuminer d'un contentement enfantin. Les dames jetaient des fleurs, les hommes agitaient leurs chapeaux, et ce fut une ruée du public vers l'estrade. Chacun voulait serrer la main du maître. Christophe vit une enthousiaste porter cette main à ses lèvres et une autre dérober le mouchoir que Hasler avait laissé tomber sur le coin de son pupitre. Il voulut, lui aussi, arriver à l'estrade, bien qu'il ne sût pas du tout pourquoi, car s'il s'était trouvé en ce moment près de Hasler, il se serait enfui aussitôt d'émotion. Mais il donnait des coups de tête comme un bélier dans les robes et les jambes qui le séparaient de Hasler. Il était trop petit, il ne put y arriver. Heureusement, grand-père vint le prendre à la sortie du concert pour l'emmener à une sérénade qu'on donnait à Hasler. C'était la nuit, on avait allumé des torches. Tous les musiciens de l'orchestre étaient là. On ne s'entretenait que des œuvres merveilleuses que l'on venait d'entendre. On arriva devant le palais et on se disposa sans bruit sous les fenêtres du maître. On affectait des airs mystérieux, bien que tout le monde fût au courant, et Hasler, comme les autres, de ce qu'on allait faire. Dans le beau silence de la nuit, on commença de jouer des pages célèbres de Hasler. Il parut à la fenêtre avec le prince, et on hurla en leur honneur. Ils saluaient tous les deux. Un domestique vint, de la part du prince, inviter les musiciens à entrer au palais. Ils traversèrent des salles dont les murs étaient badigeonnés de peintures qui représentaient des hommes nus avec des casques. Ils étaient de couleur rougeâtre, et faisait des gestes de défi. Le ciel était couvert de gros nuages, pareils à des éponges. Il y avait aussi des hommes et des femmes en marbre, vêtus de pagne en tôle. On marchait sur des tapis si doux qu'on n'entendait point ses pas, et on pénétra dans une salle où il faisait clair comme en plein jour, et où des tables étaient chargées de boissons et de choses excellentes. Le grand-duc était là, mais Christophe ne le vit pas. Il n'avait Dieu que pour Hasler. Hasler s'avança vers les musiciens, il les remercia. Il cherchait ses mots, s'embarrassa dans une phrase, et s'en tira par une saillie burlesque qui fit rire tout le monde. On se mit à manger. Hasler prit à part 4 ou 5 artistes. Il distingua grand-père et lui dit quelques mots très flatteurs. Il se rappelait que Jean-Michel avait été un des premiers à faire exécuter ses œuvres. Et il dit qu'il avait souvent entendu parler de son mérite par un ami qui avait été l'élève de grand-père. Grand-père se confondit en remerciements. Il riposta par des louanges si énormes que, malgré son adoration pour Hasler, le petit en eut honte. Mais Hasler semblait les trouver très agréables et naturels. Enfin, grand-père, qui s'était perdu dans son amphigourie, tira Christophe par la main et le présenta à Hasler. Hasler sourit à Christophe, lui caressa négligemment la tête, et quand il sut que le petit aimait sa musique et qu'il ne dormait plus depuis plusieurs nuits dans l'attente de le voir, il le prit dans ses bras et le questionna amicalement. Christophe, rouge de plaisir et muet de saisissement, n'osait pas le regarder. Hasler lui prit le menton, le força à lever le nez. Christophe se hasarda. Les yeux de Hasler étaient bons et rieurs. Il se mit à rire aussi. Puis il se sentit si heureux, si admirablement heureux dans les bras de son cher grand homme, qu'il fondit en larmes. Hasler fut touché par cet amour naïf. Il se fit plus affectueux encore, il embrassa le petit et lui parla avec une tendresse maternelle. En même temps, il disait des mots drôles et il le chatouillait pour le faire rire. Et Christophe ne pouvait s'empêcher de rire au milieu de ses larmes. Bientôt, il fut familiarisé tout à fait. Il répondit à Hasler sans aucune gêne. Et, de lui-même, il se mit à lui raconter, à l'oreille, tous ses petits projets, comme si Hasler et lui étaient de vieux amis. Comment il voulait être musicien comme Hasler, faire de belles choses comme Hasler, devenir un grand homme. Lui qui avait toujours honte, il parlait avec une entière confiance. Il ne savait ce qu'il disait, il était dans une extase. Hasler riait de son babillage. Il dit « Quand tu seras grand, quand tu seras devenu un brave musicien, tu viendras me voir à Berlin, je ferai quelque chose de toi. » Christophe était trop ravi pour répondre. Hasler le taquina. « Tu ne veux pas ?» Christophe hocha la tête avec énergie 5 ou 6 fois pour affirmer que si. « Alors, c'est convenu ?» Christophe recommença sa mimique. « Embrasse-moi au moins !» Christophe jeta ses bras autour du cou de Hasler et le serra de toutes ses forces. « Allons, diable, tu me mouilles. Laisse-moi. Veux-tu te moucher ?» Hasler riait, et il moucha lui-même l'enfant honteux et heureux. Il le déposa à terre, puis le prit par la main, le mena à une table, bourra ses poches de gâteau et le laissa en lui disant « Au revoir. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. » Christophe nageait dans le bonheur. Le reste du monde n'existait plus. Il suivait avec amour tous les jeux de physionomie et les gestes de Hasler. Un mot de lui le frappa. Hasler tenait un verre. Il parlait, et son visage s'était subitement contracté. Il disait « La joie de telle journée ne doit pas nous faire oublier nos ennemis. On ne doit jamais oublier ses ennemis. Il n'a pas dépendu d'eux que nous ne fussions écrasés. Il ne dépendra pas de nous qu'ils ne soient écrasés. C'est pourquoi mon toast sera qu'il y a des gens, à la santé desquels, nous ne buvons pas. » Tout le monde avait applaudi et ri de ce toast original. Hasler avait ri avec les autres et repris son air de bonne humeur. Mais Christophe était gêné. Bien qu'il ne se permît pas de discuter les actes de son héros, il lui déplaisait que celui-ci eût pensé à des choses laides, quand il ne devait y avoir, ce soir-là, que des figures et des pensées lumineuses. Mais son impression était confuse. Elle fut vite chassée par l'excès de sa joie et par le petit doigt de champagne qu'il but dans la coupe de grand-père. Au retour, grand-père ne cessait de parler tout seul. Les éloges qu'il avait reçus de Hasler le transportaient. Il s'écriait que Hasler était un génie, comme on n'en voit qu'un par siècle. Christophe se taisait, renferma dans son cœur son ivresse amoureuse. Il l'avait embrassée. Il l'avait tenue dans ses bras. Qu'il était bon, qu'il était grand. « Ah !» pensait-il dans son petit lit, en embrassant passionnément son oreiller, je voudrais mourir, mourir pour lui. Le brillant météore, qui avait passé un soir dans le ciel de sa petite ville, eut une influence décisive sur l'esprit de Christophe. Pendant toute son enfance, ce fut le modèle vivant sur lequel il eut les yeux fixés. Et c'est à son exemple que le petit homme de 6 ans décida lui aussi qu'il écrirait de la musique. À vrai dire, il y avait longtemps déjà qu'il en faisait sans s'en douter. Il n'avait pas attendu pour composer de savoir qu'il composait. Tout est musique pour un cœur musicien. Tout ce qui vibre et s'agite et palpite, les jours d'été ensoleillés, les nuits où le vent siffle, la lumière qui coule, le scintillement des astres, les orages, les chants d'oiseaux, les bourdonnements d'insectes, les frémissements des arbres, les voix aimées ou détestées, les bruits familiers du foyer, de la porte qui grince, du sang qui gonfle les artères dans le silence de la nuit, tout ce qui est musique. Il ne s'agit que de l'entendre. Toute cette musique des êtres résonnait en Christophe. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il sentait se muait en musique. Il était comme une ruche bourdonnante d'abeilles. Mais nul ne le remarquait, lui moins que personne. Comme tous les enfants, il chantonnait sans cesse. À toute heure du jour, quelque chose qu'il fit, qu'il se promena dans la rue en sautillant sur un pied, ou que, vautré sur le plancher de grand-père et la tête dans ses mains, il fut plongé dans les images d'un livre, ou qu'assis sur sa petite chaise dans le coin le plus obscur de la cuisine, il rêvassa sans penser, tandis que la nuit tombait, toujours on entendait le murmure monotone de sa petite trompette, bouche close et les joues gonflées en s'éprouvant des lèvres. Cela durait des heures, sans qu'il s'en lassât. Sa mère n'y faisait pas attention, puis brusquement elle en criait d'impatience. Quand il était là de cet état de demi-somnolence, il était pris d'un besoin de se remuer et de faire du bruit. Alors il inventait des musiques qu'il chantait à tue-tête. Il en avait fabriqué pour toutes les occasions de sa vie. Il en avait pour quand il barbotait dans sa cuvette le matin comme un petit canard. Il en avait pour quand il montait au tabouret de piano devant l'instrument détesté, et surtout quand il en descendait. Celle-ci était bien plus brillante que l'autre. Il en avait pour quand maman apportait la soupe sur la table. Il la précédait alors en sonnant des fanfares. Il se jouait à lui-même des marches triomphales pour se rendre solennellement de la salle à manger à sa chambre à coucher. Parfois, à cette occasion, il organisait des cortèges avec ses 2 petits frères. Tous 3 défilaient gravement à la suite l'un de l'autre, et chacun avait sa marche. Mais Christophe se réservait, comme de juste, la plus belle. Chacune de ces musiques était affectée rigoureusement à une occasion spéciale, et Christophe n'aurait jamais eu idée de les confondre. Tout autre s'y serait trompé, mais il y distinguait des nuances d'une précision lumineuse. Un jour que, chez grand-père, il tournait autour de la chambre, en tapant des talons, la tête en arrière et le ventre en avant, il tournait, tournait indéfiniment, à se rendre malade en exécutant une de ses compositions. Le vieux, qui se faisait la barbe, s'arrêta de se raser, et, la figure toute barbouillée de savon, il le regarda et dit « Qu'est-ce que tu chantes donc, gamin ?» Christophe répondit qu'il ne savait pas. « Recommence, » dit Jean-Michel. Christophe essaya. Il ne put jamais retrouver l'air. Fier de l'attention de grand-père, il voulut faire admirer sa belle voix, en chantant à sa façon un grand air d'opéra. Mais ce n'était pas là ce que demandait le vieux. Jean-Michel se tut et parut ne plus s'occuper de lui, mais il laissa la porte de sa chambre entr'ouverte, tandis que le petit s'amusait seul dans la pièce à côté. Quelques jours après, dans un cercle de chaises disposées autour de lui, Christophe était en train de jouer une comédie musicale qu'il s'était fabriquée avec les bribes de ses souvenirs de théâtre. Très sérieux, il exécutait sur un air de menuet, comme il avait vu faire, des pas et des références qu'il adressait au portrait de Beethoven, suspendu au-dessus de la table. En se retournant pour une pirouette, il vit, par la porte entrebâillée, la tête de grand-père qui le regardait. Il pensa que le vieux se moquait de lui. Il eut bien honte. Il s'arrêta net, et courant à la fenêtre, il écrasa sa figure contre les carreaux, comme s'il était absorbé dans une contemplation du plus haut intérêt. Mais le vieux ne dit rien. Il vint vers lui, il l'embrassa. Et Christophe vit bien qu'il était content. son petit amour-propre ne manqua pas de travailler sur ses données. Il était assez fier pour juger qu'on l'avait apprécié, mais il ne savait pas au juste ce que grand-père avait le plus admiré en lui, si c'était ses talents d'auteur dramatique, de musicien, de chanteur ou de danseur. Il penchait pour ces derniers, car il en faisait cas. Une semaine plus tard, quand il avait tout oublié, grand-père lui dit d'un air mystérieux qu'il avait quelque chose à lui montrer. Il ouvrit son secrétaire, en tira un cahier de musique, le mit sur le pupitre du piano et dit à l'enfant de jouer. Christophe, très intrigué, déchiffra tant bien que mal. Le cahier était écrit à la main, de la grosse écriture du vieux, qui s'était spécialement appliqué. Les entêtes étaient ornées de boucles et de paraphes. Après un moment, grand-père, qui était assis à côté de Christophe et lui tournait les pages, lui demanda quelle était cette musique. Christophe, trop absorbé par son jeu pour distinguer ce qu'il jouait, répondit qu'il n'en savait rien. « Fais attention, tu ne connais pas cela ?» Oui, il croyait bien le reconnaître, mais il ne savait pas où il l'avait entendu. Grand-père riait. « Cherche !» Christophe secouait la tête. « Je ne sais pas. » À vrai dire, des lueurs lui traversaient l'esprit. Il lui semblait que ses airs... Mais non, il n'osait pas. Il ne voulait pas reconnaître. « Grand-père, je ne sais pas. » Il rougissait. « Allons, petit sot. Tu ne vois pas que ce sont tes airs ?» Il en était sûr, mais de l'entendre dire lui fit un coup de cœur. « Oh, grand-père !» Le vieux, rayonnant, lui expliqua le cahier. « Voilà, Aria. C'est ce que tu chantais mardi quand tu étais vautré par terre. Marche, c'est ce que je t'ai demandé de recommencer l'autre semaine et que tu n'as jamais pu retrouver. Menuet, c'est ce que tu dansais devant mon fauteuil. Regarde. » Sur la couverture était écrit en gothique admirable « Les plaisirs du jeune âge, aria, minuetto, valzer et marcha. Opus 1 de Jean-Christophe Kraft. » Christophe fut ébloui. Voir son nom, ce beau titre, ce gros cahier, son œuvre. Il continuait de balbutier. « Oh, grand-père, grand-père !» Le vieux l'attira à lui. Christophe se jeta sur ses genoux et cacha sa tête dans la poitrine de Jean-Michel. Il rougissait de bonheur. Le vieux, encore plus heureux que lui, reprit d'un ton qu'il tâchait de rendre indifférent, car il sentait qu'il allait s'émouvoir. « Naturellement, j'ai ajouté l'accompagnement et les harmonies dans le caractère du chant. Et puis, il toussa, et puis j'ai aussi ajouté un trio au menuet, parce que c'est l'habitude. Et puis enfin, je crois qu'il ne fait pas mal. » Il le joua. Christophe était très fier de collaborer avec grand-père. « Mais alors, grand-père, il faut que tu mettes aussi ton nom. Cela n'en vaut pas la peine. Il est inutile que d'autres que toi le sachent. Seulement... » Ici sa voix trembla, « Seulement, plus tard, quand je n'y serai plus, cela te rappellera ton vieux grand-père, n'est-ce pas? Tu ne l'oublieras pas. » Le pauvre vieux ne disait pas tout. Il n'avait pu résister au plaisir, bien innocent, d'introduire un de ses malheureux airs dans l'œuvre de son petit-fils, qu'il pressentait devoir lui survivre. Mais son désir de participer à cette gloire imaginaire était bien humble et bien touchant, puisqu'il lui suffisait de transmettre, anonyme, une parcelle de sa pensée, afin de ne pas mourir tout entier. Christophe, très touché, lui couvrait la figure de baisers. Le vieux, qui se laissait attendrir de plus en plus, lui embrassait les cheveux. « N'est-ce pas que tu te souviendras? N'est-ce pas, tu te souviendras? Plus tard, quand il sera devenu un bon musicien, un grand artiste, qui fera honneur à sa famille, à son art et à la patrie, quand tu seras célèbre, tu te souviendras que c'est ton vieux grand-père qui t'a le premier deviné, qui a prédit ce que tu serais ?» Il avait les larmes aux yeux de s'entendre parler. Il ne voulut pas laisser voir cette marque de faiblesse. Il eut une quinte de toux, prit un air bourru et renvoya le petit en serrant précieusement le manuscrit. Christophe revint chez lui, étourdi de joie. Les pierres dansaient autour de lui. L'accueil qu'il reçut des siens le dégrisa un peu. Comme il se hâtait, naturellement, de leur raconter tout glorieux son exploit musical, ils jetèrent les hauts cris. Sa mère se moqua de lui. Melchior déclara que le vieux était fou et qu'il ferait beaucoup mieux de se soigner que de tourner la tête au petit. Quant à Christophe, il lui ferait le plaisir de ne plus s'occuper de ses niaiseries, de se mettre illico à son piano et de jouer des exercices pendant 4 heures. Qu'il tâche d'abord d'apprendre à jouer proprement. Pour la composition, il avait le temps de s'en occuper plus tard, quand il n'aurait rien de mieux à faire. Ce n'est pas, comme ses sages paroles auraient pu le faire croire, que Melchior se préoccupa de défendre l'enfant contre l'exaltation dangereuse d'un orgueil prématuré. Il devait se charger de démontrer promptement le contraire. Mais n'ayant jamais eu lui-même aucune idée à exprimer en musique, ni le moindre besoin d'en exprimer aucune, il en était arrivé, dans son infatuation de virtuose, à considérer la composition comme une chose secondaire, à laquelle l'art de l'exécutant donnait seul tout son prix. Il n'était certes pas insensible aux enthousiasmes suscités par les grands compositeurs comme Mahler. Il avait pour ses ovations le respect qu'il éprouvait toujours pour le succès, mêlé secrètement d'un peu de jalousie, car il lui semblait que ses applaudissements lui étaient dérobés. Mais il savait par expérience que les succès des grands virtuoses ne sont pas moins bruyants, qu'ils sont même plus personnels et plus fertiles en conséquences agréables et flatteuses. Il affectait de rendre un profond hommage au génie des maîtres musiciens, mais il avait plaisir à raconter d'eux des anecdotes ridicules qui donnaient de leur intelligence et de leurs mœurs une triste opinion. Il plaçait le virtuose au sommet de l'échelle artistique, car, disait-il, il est bien connu que la langue est la plus noble partie du corps, et que serait la pensée sans la parole, que serait la musique sans l'exécutant. Quelle que fût d'ailleurs la raison de la semonce qu'il administra à Christophe, cette semonce n'était pas inutile pour rendre petit l'équilibre que les louanges du grand-père risquaient fort de lui faire perdre. Elle ne suffisait même pas. Christophe ne manqua point de juger que son grand-père était beaucoup plus intelligent que son père. Et s'il se mit au piano sans rechigner, ce fut bien moins pour obéir que pour pouvoir rêver à son aise, ainsi qu'il avait coutume, tandis que ses doigts couraient machinalement sur le clavier. Tout en exécutant ses interminables exercices, il entendait une voix orgueilleuse qui répétait en lui « Je suis un compositeur, un grand compositeur ». À partir de ce jour, puisqu'il était un compositeur, il se mit à composer. Avant de savoir à peine ses lettres, il s'évertua à griffonner des noirs et des croches sur des lambeaux de papier qu'il arrachait au cahier des comptes du ménage. Mais la peine qu'il se donnait pour savoir ce qu'il pensait, et pour le fixer par écrit, faisait qu'il ne pensait plus à rien, sinon qu'il voulait penser quelque chose. Il ne s'en obstinait pas moins à construire des phrases musicales. Et comme il était naturellement musicien, il y arrivait tant bien que mal, encore qu'elles ne signifiassent rien. Alors il s'en allait les porter, triomphant à grand-père, qui en pleurait de joie. Il pleurait facilement maintenant qu'il vieillissait, et qui proclamait que c'était admirable. Il y avait de quoi le gâter tout à fait. Heureusement, son bon sens naturel le sauva, aidé par l'influence d'un homme qui ne prétendait pourtant exercer aucune influence sur qui que ce fût, et qui ne donnait aux yeux du monde rien moins que l'exemple du bon sens. C'était le frère de Louisa. Il était petit comme elle, mince, chétif, un peu voûté. On ne savait au juste son âge. Il ne devait pas avoir passé la quarantaine, mais il semblait avoir 50 ans et plus. Il avait une petite figure ridée, rosée, avec de bons yeux bleus très pâles, comme des myosotis un peu fanés. Quand il enlevait sa casquette, qu'il gardait frileusement partout, de crainte du courant d'air, il montrait un petit crâne tout nu, rose et de forme conique, qui faisait la joie de Christophe et de ses frères. Il ne se lassait pas de le taquiner à ce sujet, lui demandant ce qu'il avait fait de ses cheveux et menaçant de le fouetter, excité par les grosses plaisanteries de Melchior. Il en riait le premier et se laissait faire avec patience. Il était petit marchand ambulant. Il allait de village en village, portant sur son dos un gros ballot où il y avait de tout, de l'épicerie, de la papeterie, de la confiserie, des mouchoirs, des fichus, des chaussures, des boîtes de conserve, des almanachs, des chansons et des drogues. Plusieurs fois, on avait tenté de le fixer quelque part, de lui acheter un petit fonds, un bazar, une mercerie. Mais il ne pouvait s'y faire. Une nuit, il se levait, mettait la clé sous la porte et repartait avec son ballot. On restait des mois sans le voir, puis il reparaissait. Un soir, on entendait gratter à l'entrée. la porte s'entrebâillait, et la petite tête chauve, poliment découverte, se montrait avec ses bons yeux et son sourire timide. Il disait « Bonsoir à toute la compagnie. Prenez soin d'essuyer ses souliers avant d'entrer, saluait chacun, en commençant par le plus âgé, et allait s'asseoir dans le coin le plus modeste de la chambre. Là, il allumait sa pipe, et il baissait le dos, attendant tranquillement que la grêle habituelle de Quolibet fût passée. Les deux Kraft, le grand-père et le père, avaient pour lui un mépris goguenard. Cet avorton leur paraissait ridicule, et leur orgueil était blessé de l'infime condition du marchand ambulant. Il le lui faisait sentir, mais il ne semblait pas s'en apercevoir, et il leur témoignait un respect profond qui les désarmait, surtout le vieux, très sensible aux égards qu'on avait pour lui. Il se contentait de l'écraser de lourdes plaisanteries qui faisaient monter le rouge au visage de Louisa. Celle-ci, habituée à s'incliner sans discussion devant la supériorité des Kraft, ne doutait pas que son mari et son beau-père n'eussent raison. Mais elle aimait tendrement son frère, et son frère avait pour elle une adoration muette. Ils étaient tous deux seuls de leur famille, et tous deux humbles, effacés, écrasés par la vie. Un lien de mutuelle pitié et de souffrance commune, secrètement supporté, les attachait ensemble avec une triste douceur. Au milieu des Kraft, robustes, bruyants, brutaux, solidement bâtis pour vivre et vivre joyeusement, ces deux êtres faibles et bons, qui semblaient en dehors ou à côté de la vie, se comprenaient, se plaignaient, sans se le dire jamais. Christophe, avec la légèreté cruelle de l'enfance, partageait le dédain de son père et de son grand-père pour le petit marchand. Il s'en divertissait comme d'un objet comique. Il le harcelait de taquineries stupides que l'autre supportait avec son inaltérable tranquillité. Christophe l'aimait cependant, sans bien s'en rendre compte. Il l'aimait d'abord comme un jouet docile dont on fait ce qu'on veut. Il l'aimait aussi parce qu'il y avait toujours quelque chose de bon à attendre de lui. Une friandise, une image, une invention amusante. Le retour du petit homme était une joie pour les enfants, car il leur faisait toujours quelques surprises. Si pauvre qu'il fût, il trouvait moyen d'apporter un souvenir à chacun, et il n'oubliait la fête d'aucun de la famille. On le voyait arriver ponctuellement aux dates solennelles, et il tirait de sa poche quelques gentils cadeaux choisis avec cœur. On y était si habitué qu'on songeait à peine à le remercier. Il paraissait suffisamment payé par le plaisir qu'il avait à l'offrir. Mais Christophe, qui ne dormait pas très bien et qui pendant la nuit ressassait dans son cerveau les événements de la journée, réfléchissait parfois que son oncle était très bon. Il lui venait pour le pauvre homme des effusions de reconnaissance dont il ne lui montrait rien une fois le jour venu, parce qu'alors il ne pensait plus qu'à se moquer. Il était d'ailleurs trop petit encore pour attacher à la bonté tout son prix. Dans le langage des enfants, bon et bête sont presque synonymes, et l'oncle Gottfried en semblait la preuve vivante. Un soir que Melchior dînait en ville, Gottfried, resté seul dans la salle du bas, tandis que Louisa couchait les deux petits, sortit et alla s'asseoir à quelques pas de la maison au bord du fleuve.